Bien. Merci. Merci d'être venu nous entendre. Alors, moi, je suis terrifié, évidemment, mais enfin, bon, on va essayer d'aller au-delà de ça. J'ai le trac. Bon. Donc le micro, ça marche. Je suis audible. Alors, à partir de là, bon, ben, je vais commencer. D'abord remercier la librairie Mola, parce que vraiment, c'est leur insistance, leur gentillesse qui a permis qu'on fasse cette réunion ici. Et puis ensuite, aussi remercier, c'est l'occasion, alors Monique Bidlowski n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est elle qui nous a fait l'honneur d'une préface qui est très, très, enfin on est honoré vraiment de cette préface, et même si elle n'a pas participé au groupe, elle a pu consulter nos contributions, quoi. Parce que tous ces écrits qui ont été rassemblés dans ce tout petit livre viennent du travail d'un groupe de travail qui s'est réuni pendant 2-3 ans et qui avait la particularité d'être affilié à deux groupes analytiques, qui étaient un groupe de la diversité, on pourrait dire, finalement, parce que bon, il était à la fois affilié à Espace Analytique et au quatrième groupe. On a pu s'exprimer, parler de nos contributions déjà dans une réunion au quatrième groupe, puis on a décrit toute la dynamique de notre groupe à Espace Analytique récemment, voilà, et et effectivement, il y avait un autre défi qui était de rassembler dans un même ouvrage des contributions à partir de pratiques qui paraissent a priori assez différentes, puisque périnatalité, travail avec les adolescents, soins palliatifs, a priori, il n'y a pas tellement de points communs. Et en fait, il s'est avéré que si. Voilà. Et il s'est avéré que si, mais bon, disons que le point commun qui a été donné dans le titre, qui a beaucoup hésité, on a beaucoup hésité pour le titre, par exemple, on a commencé par dire les traces qu'on voit, est-ce que c'est de l'archaïque? Est-ce de l'archaïque? Et c'est quoi l'archaïque, etc. On a beaucoup essayé de travailler sur cette notion-là. Et bon... Finalement, on s'est mis d'accord parce que l'éditeur a dit « ça suffit, toutes ces hésitations, on va prendre un titre, c'est bon, les traces de l'archaïque, et puis taisez-vous ». Alors on a dit « ok ». Parce que cet éditeur donc a permis également de nous rassembler. Il faut que je parle de Joël Rochette, qui ne sera pas là non plus aujourd'hui, parce que alors je fais un peu comme on n'est pas couché là. Joël Rochette ne viendra pas aujourd'hui, et elle a contribué en parlant de ce moment très particulier des 40 jours après dans le postpartum, ce qu'elle appelle les relevailles, et c'est une contribution très intéressante sur la dynamique de la recomposition du groupe et du couple au moment, après, dans ces 40 jours. Voilà. Alors, bon, c'est un article tout à fait remarquable. Voilà. Moi, je vais vous parler donc de mon point de départ et de ce qui... parce qu'on a décidé chacun de dire un peu ce qui nous a animés, ce qui était au fond l'essentiel de ce qu'on a voulu transmettre dans ce livre, sans reprendre les articles qui sont lisibles dans le livre. Donc mon point de départ, mon point de départ à moi, ça n'était pas l'insistance des traces indestructibles ou l'existence incontestable d'un archaïque qui viendrait hanter ou compromettre notre conscience ou notre modernité. C'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire le constat de la fragilité de la construction ou de la constitution de ces traces et la facilité individuelle ou sociétale de notre société du recours au négationnisme. C'est une notion qu'on a du mal à situer entre refoulement, déni, désaveu, forclusion, enfin bon. Toutes ces notions paraissant pas très satisfaisantes pour cerner de quoi il s'agit. Moi, ce qui m'a posé question, ça n'était pas la nature des traces, de ce qui excède l'humain, la jouissance au-delà du principe de plaisir, par exemple, mais plutôt ces traces très spéciales de ce qui, dans l'humain, nie l'humain. Qu'on l'appelle meurtre d'âme, mort psychique, abolition du sujet, c'est les noms qu'on a donnés à ces traces supposées du traumatisme psychique, puisque, en fait, enfin, de mon point de vue, moi, ce qui m'a intéressé, c'est une réflexion sur la question du traumatisme psychique à partir de ma pratique avec les adolescents. Or, il est avéré que la notion moderne de stress post-traumatique ne tient aucun compte de la nature de l'événement. Elle est centrée sur les effets individuels et elle tient pour négligeable la nature des causes, par exemple, que ce soit une catastrophe naturelle ou l'agression produite par un autre être humain, c'est la même chose. La conception freudienne aussi du traumatisme, quand elle est purement économique, même si elle complique évidemment l'affaire en considérant l'événement, le choc, comme un éveilleur d'excitation sexuelle, ça paraît également manquer cette différence, pourtant à mes yeux essentielle. Et quant à moi, il m'a fallu appeler Ferenczi à la rescousse. Pour faire valoir ça, le traumatisme humain se constitue d'un double mouvement. D'abord le coup reçu, avec l'excitation qui en résulte, mais aussi l'importance décisive, justement pour constituer un traumatisme humain, de la reconnaissance ou du déni par l'autre que le coup a été donné. Et ça complexifie singulièrement la notion d'après-coup, puisqu'il faut alors, pour en rendre compte, ajouter à la temporalité paradoxale de l'activation des traces anciennes qu'on connaît, la position de l'autre. Alors, quelle différence, change de registre, y a-t-il entre le président Schreber, Adolf Hitler et Henri Atlan ? Réponse, aucune. Tous les trois pensent possible et réalisable quasi immédiatement le changement de l'espèce humaine. Évidemment, les moyens en diffèrent en apparence, puisque dans le premier cas, c'est se changer en femme pour s'accoupler avec Dieu, pour engendrer des nouveaux êtres qui vont remplacer les ombres d'hommes bâclés à la 642. Dans le deuxième cas, c'est exterminer les Untermensch non-ariens et produire en batterie des surhommes ariens. Et dans le troisième, c'est réaliser l'égalité parfaite des sexes par des grossesses totalement externalisées, de l'éprouvette à l'utérus artificiel avec balancement incorporé. Pour ceux que ça intéresse, c'est paru à la librairie du XXe siècle, l'ouvrage d'Henri Atlan. Pas besoin de voir ici le retour ou la survivance des chamans ou des alchimistes, l'archaïque. C'est plutôt une hypermodernité qui transforme la sexualité humaine que nous connaissons en archaïsme et la dynamique du désir à l'état de traces perdues dans le fouillis du piétinement chaotique de nos sciences. Ce livre parle d'une nouvelle catégorie, celle des psychanalystes exposés, c'est le terme que j'ai trouvé. Comme les enfants exposés de Madagascar ou d'ailleurs, on les a mis, ou bien ils se sont mis, à des carrefours. Du fait de leur bizarrerie, on les a testés pour vérifier leur non-nocivité, ce qu'on fait pour les enfants exposés. S'ils survivent à cette exposition, c'est qu'ils ne sont pas maléfiques. Au carrefour de la science, des religions high-tech et des magies modernes, un travail de psychanalyste hors cure type est-il encore possible ? En tout cas, les écritures contenues dans le livre tentent de démontrer que oui. Donc, écrire les traces de ce qui ne peut pas s'écrire parce que le défaut est dans l'autre, telle était déjà la visée de Winnicott dans La crainte de l'effondrement. Avec sa formule désormais célèbre, il s'agit de constituer un lieu pour ceux qui ne trouvent pas de lieu psychique pour s'inscrire. Car c'est dans l'environnement qui défaille, c'est l'environnement qui défaille dans ce holding. Alors bien sûr, j'avais répété comme on le dit, les poètes nous précèdent, on le sait. C'est Georges Perec, pour moi en tout cas, qui à mon sens a trouvé le mode d'écriture qui convient à ces traces de la destruction définitive traumatique des traces, dans son livre « La disparition ». On se rappelle que sa mère fut déportée, exterminée, et que laissée sans sépulture, elle resta pour lui, malgré des années d'analyse, toute sa vie, la disparue. Ici, pas de citation possible, ou bien il faudrait citer tout le livre pour s'apercevoir au dernier mot qu'une lettre manque et que pourtant rien ne manque. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'idée qui m'a conduite tout au long de... pour écrire cet article sur l'adolescence. Ça parle aussi des scarifications en plus. Bon, c'est un à côté. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Francis Drossard. Difficile transition comme ça, mais justement...
Eh bien, merci Patrick, qui vient de résumer déjà toute notre démarche. Et... eh bien, je crois que je vais peut-être donner l'impression d'un copier-coller en reprenant à partir de Pérec un autre auteur dont je cite la page de garde. Après les secrets du Vatican et de la pyramide du Louvre, Dan Brown, dans Le symbole perdu, nous dévoile la face cachée de Washington et les mystères du Capitole. Pourquoi je choisis cette œuvre très talentueuse au demeurant comme exergue? C'est parce qu'elle présente, me semble-t-il, une version qui me paraît assez traditionnelle des traces. Selon cette version, la trace existe par elle-même, elle a à être découverte, elle est porteuse d'un message, et ce message n'a pas à être modifié, mais à être exploité dans ses conséquences. Ce qui renvoie à un phénomène décrit dans d'autres problématiques par Marx quand il parle du fétichisme de la marchandise. Dans son texte, note sur le bloc magique, Freud commence par nous exposer une version tout à fait comparable de la trace et la fameuse comparaison hiéroglyphique du travail de déchiffrage de l'inconscient. En effet, il compare le travail de persistance et de remémoration des traces à un objet qui maintenant est tout à fait désuet, qui s'appelle l'ardoise magique, mais on n'a qu'à transposer à l'ordinateur et au disque dur pour avoir tout à fait la problématique de Freud dans une contemporanéité qui nous est plus familière. Dans cette comparaison des traces inconscientes avec ce qu'on appellerait le disque dur de l'ordinateur, eh bien, il y a, on pourrait dire, une coïncidence parfaite entre ce qui est laissé pour trace et ce qui va être découvert ensuite. Et on en resterait là si, à la fin du texte, Freud ne s'échappait pas, comme il le fait souvent, d'une espèce de carcan dans lequel il semble s'être, dans un premier temps, emprisonné. Et il a cette envolée tout à fait curieuse quand il imagine ce qui pourrait se passer si les traces d'elles-mêmes voulaient venir voir le jour, comme des pseudopodes, c'est l'expression. On a l'impression de quelque chose de quasi délirant, d'une trace voulant faire la poussée vers la surface par elle-même. Eh bien, c'est cette partie-là du texte de Freud qui nous a particulièrement intéressés, qui nous a paru être en résonance avec notre travail de groupe, et c'est de cette partie-là qu'il s'agira aujourd'hui, de cette poussée d'un inconscient qui veut revenir à la surface. C'est de ça qu'il s'agit, et de ces traces qui errent comme une âme en peine ou comme un génie qui serait sorti de sa bouteille. Alors, avant de décrire son célèbre épisode de la petite Madeleine, Proust affirme trouver parfaitement raisonnable la croyance celtique selon laquelle des âmes existent à l'intérieur des arbres. Et dans Le temps retrouvé, à la fin de son œuvre, il reprend cette question sous la forme suivante. Je cite. Qu'il s'agit de réminiscences dans le genre du goût de la Madeleine ou de ces vérités écrites à l'aide de figures dont j'essayais de trouver le sens dans ma tête, où, clocher, herbe folle, elles composaient un grimoire compliqué et fleuri, leur premier caractère était que je n'étais pas libre de les choisir, qu'elles m'étaient données telles quelles. On voit donc que la différence est abolie entre la réminiscence et la création littéraire, dans une version assez platonicienne de la réminiscence. Mais cela veut dire aussi qu'inversement, la lecture est une réécriture, et c'est bien ce va-et-vient qui me paraît particulièrement rendre compte du travail qui s'est peu à peu élaboré entre nous, quand nous sommes partis de problématiques différentes et par des va-et-vient successifs qui nous ont menés à cette conception-là que nous exposons aujourd'hui. Donc, c'est en cela, et je le dis dans un lieu particulièrement impressionnant pour le dire, que Proust estime qu'il ne veut pas être bibliophile. Les seuls livres, dit-il, qu'il voudrait conserver seraient les livres de son enfance, en sachant que s'il les ouvre, les souvenirs risquent de s'évaporer, un peu comme ces fresques de Lascaux ou celles de Fellini-Romain qui se détruisent sous l'effet de la lampe de poche. C'est quelque chose qui est très exploité par l'art contemporain, et pour les citer très rapidement, aussi bien les souvenirs de chambre d'hôtel de Sophie Kahn que les collections de Christian Boltanski, les tirs groupés de Niki de Saint-Phalle ou les œuvres de Pic d'Annette Messager. Tout ça nous évoque ce que Patrick Ayoun évoquait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire cette difficulté de retrouver la trace et de faire de cette difficulté même l'objet de l'œuvre. Allons plus loin dans cette évanescence des vanités et dans la provocation telle qu'elle est exposée au Centre Pompidou actuellement, l'exposition Els. Eh bien, voyons par exemple l'œuvre de l'artiste féminine Gina Payne qui expose sous vitrine un échantillon de ses tampons périodiques usagés, ou Orlan qui fait consigner un procès-verbal écrit de son utilisation en public d'un produit de lessive. Le bloc magique, la trace qui veut revenir à la surface pour mieux disparaître, c'est donc le fil rouge qui nous a réunis, nous, cliniciens de l'inconscient, explorant qui le périnatal, qui le pubertaire ou les fins de vie, avec comme seul bagage quelques références théoriques, une pelote kleinienne d'identification projective pour les uns, des bouts de ficelle lacaniens pour les autres, quelque chose que nous avons un peu bricolé par nous-mêmes. Et pour chacun de nous, c'était toujours la rencontre surprenante avec l'inconscient de nos patients, bien sûr, mais en résonance avec le nôtre. Ainsi, je repense à cette jeune mère dont le bébé est hospitalisé parce qu'elle a chauffé le biberon au micro-ondes et qu'elle n'arrive pas à le nourrir. Cette jeune mère finit par me dire qu'elle a maintenant, en m'en parlant, l'impression qu'il se passe quelque chose entre un souvenir traumatique de la connaissance par elle d'un viol chez sa sœur et son impression de violer son enfant en lui donnant le biberon. Tous ces télescopages auxquels la psychanalyse nous rend familiers prennent sens au moment où ils surgissent, et c'est leur surgissement même qui, pour nous, a l'effet de trace. Le « ça ne passe pas » qui peut s'appliquer à l'ésophage du bébé brûlé, c'est aussi le « ça ne passe pas » de l'inconscient et des souvenirs qui reviennent ou ne reviennent pas. Mais c'est aussi « ça nous dépasse ». Et là, « ça nous dépasse », c'est par exemple l'œuvre d'Isabelle Auger montrant une tour Eiffel tronquée de son sommet, référence Revue Artiste Magazine, février 2010. « Ça nous dépasse ». Oui, ça nous dépasse et ça n'a pas fini de nous dépasser. L'archaïque ne se laisse pas mettre en boîte. Il faut exercer son oreille pour l'entendre et pour l'écouter. On ne peut pas le brancher sur un haut-parleur ou sur un beau-parleur. Mais reprenons Dan Brown. Quand il nous décrit le traître, le méchant, Malak, qui essaie d'entrer au niveau du Capitole, de franchir les portiques de sécurité dont on imagine qu'ils sont assez sophistiqués, il avait eu moins de difficultés que prévu pour entrer. Sa posture voûtée et le rembourrage sur son estomac avaient camouflé son véritable gabarit, le maquillage cachant les tatouages qui recouvraient son corps. Comme le remarque Sophie de Mijola, dans les romans qu'on appelle policiers, le caractère des personnages évolue peu. C'est la seule différence qu'elle établit entre perversion et sublimation, phénomène psychique dont elle souligne la très grande proximité. Dans la perversion, les scénarios se répètent à l'identique, alors que dans la sublimation, il y a renouvellement. J'opposerai en cela la pauvreté de l'univers sadien qu'on peut opposer à la richesse de l'univers dostoïevskien. Nous sommes en présence, dans les deux cas, de ce que Nathalie Salzman appellerait l'esprit du mal, mais sous des points de vue bien différents. Qu'il s'agisse de nos patientes de dépression du postpartum, avec leur fantasme d'enfant mort et leur hiatus périnatal, qu'il s'agisse de ces sujets qui sont à la recherche de leur pubertaire comme des personnages en quête d'auteur, dont nous parle Patrick, ou qu'il s'agisse de ces mères à la recherche d'une survie empirisée, dont nous parle Laure, ou encore de cette jeune mère porteuse du VIH qui recherche dans l'hystérisation un sens à ce qui lui arrive, selon nous parle Ouriel, il y a toujours cette recherche et cette impossible découverte. Pour conclure, le geste du célèbre roman Notre-Dame de Paris, le geste du prêtre qui montre la cathédrale d'un côté, nous pouvons nous référer à Péberlan, et la bibliothèque de l'autre, et nous sommes dans un lieu qui s'y prête, ceci remplacera cela, donc montrant les livres, pour indiquer les livres, remplacer l'inscription de la cathédrale. Et quelque chose qui nous a toujours questionné au cours de notre groupe de travail et de notre ouvrage, qu'est-ce qui remplace ? Qu'est-ce qui est remplacé par quoi ? Mais si on peut dire cela d'une autre manière, au fond, vous aurez compris que notre propos n'est pas de remplacer l'un par l'autre et qu'il s'agit d'une double transcription interminable, jamais terminée, toujours à faire, et que entre la bibliothèque avec ses sorcières métapsychologiques et la cathédrale qui est porteuse du mythe individuel et collectif, nous n'avons pas à choisir, mais à maintenir ouvert et vivant le passage de l'un à l'autre. Donc, ni passéiste, ni dans l'hypermodernité, nous nous présenterons donc comme des psychanalystes exposés. Je vous remercie.
Donc, Laure.
Vous allez être déçus, car travailler en USP, pourtant depuis plus de 10 ans, je ne me sens pas spécialiste ni du mourir, ni de la séparation. Au terme d'accompagnement et de prévention du deuil, je préfère ceux d'accident du symbolique, dans ces situations où les personnes sont aux prises avec un réel qui les déborde. Et comme au commencement, il faut un autre, voire plusieurs autres, notamment l'équipe, pour une reprise de la symbolisation. Alors en préparant ma venue ici, étrangement, deux poèmes écrits il y a fort longtemps, dans les jours qui suivirent le décès d'une de mes filles, âgée alors de 4 ans, ne cessait de se frayer un passage à ma conscience. Je les ai repoussés avec force, jusqu'à ce matin, car enfin, je connais la valeur limitée et dérangeante des témoignages, et surtout, aucun analyste n'est censé faire part d'éléments de sa vie privée lorsqu'il doit présenter un travail. C'est sans doute aussi ce lieu qui accueille une multiplicité d'expressions qui en même temps l'autorise. En même temps, on ne peut ignorer ce que l'adhésion à différentes théories recèle de nos propres histoires, ni que nos expériences, à la fois analytiques et de vie même extrêmes, sont des appuis fiables et constants pour rencontrer, écouter et aider nos patients, notamment dans leur détresse. À un moment où sont évacuées les étiologies sexuelles infantiles des symptômes, où nous cherchons à objectiver les soins et les normaliser, je veux sans doute réaffirmer la valeur scientifique du plus subjectif et du plus singulier dans la compréhension des faits psychiques humains. Donc, me voilà transgresser un tabou et je me risque à votre critique en vous les lisant. Donc, je vous lis ces deux poèmes. Le corps perd. Ta lumineuse absence souffle sur ma peau des perles irisées, pailles dorées, gouttes d'amour. Il y a des fleuves qui courent sans bruit et irrigueront des lieux méconnus. Des brassées de rire s'en ouvriront et des sourires invisibles se graveront sur les bouches immuables. Pour des empreintes sans traces, pour des musiques inouïes, il y a des voix secrètes qui saignent les yeux. Le ventre est vide, le monde ne te porte plus. Je te cherche, vivante chair, et c'est bien que je veille de ta présence. Tu tressautes entre mes bras, mais la mort est déjà là, je l'ai su immédiatement. Un magicien m'a privé de toi, un mauvais tour, et puis s'en va. Mes lèvres, paniquées, forment ton nom. Mes cris ne retiennent pas la vie, ni l'amour. Quand un temps se ferme sur toi, un espace éternel se déploie. Douleur crue et insupportable violence, je m'y refuse pour survivre un peu. L'horreur prive d'image la couleur des nuits, ma pensée cesse, et pendant de longues heures, un tracé plat se lira sur mon front. Alors la transgression du tabou est-elle en relation avec la confrontation à la mort et comment ? Freud écrit que le nouveau-né, la femme qui souffre, l'adolescent sont tabous parce que leur contact suscite des excitations qui coïncident avec un effacement des limites et des interdits. Toutes les frontières garantes de la stabilité de la vie psychique sont atteintes. Les êtres aimés, en train de mourir, peuvent également présenter cette potentialité dangereuse. Ils attirent dans la mort avec eux les vivants, parce qu'ils sont une partie de leur moi bien-aimé, et ils éveillent leur désir meurtrier, parce qu'ils sont aussi une part étrangère. Une des défenses face à cela consiste à se cliver. D'un côté, l'aspect meurtrier, de l'autre, l'absolument bon. L'accès à l'ambivalence des sentiments est essentiel au travail de subjectivation lors de la confrontation à la mort. Ce moment où de la haine peut s'entendre, entamant le tout amour, ou inversement, quand s'écaille la persécution, laissant apparaître la tendresse. Alors s'affirme l'enjeu de ces mouvements psychiques, celui d'une humanisation toujours à refaire. Quand cesse le règne de l'idolâtrie et de la diablerie, apparaissent les humains. C'est-à-dire qu'est alors admis notre vulnérabilité, condition de mortel, qui ne cherche pas à utiliser l'autre pour colmater ses douleurs d'existence. Certains pensent que les empreintes laissées par les pertes précoces détermineraient les modalités des deuils futurs. Je pense que de nouveaux frayages peuvent se former en réorganisant l'ensemble de ce qui fait notre identité et notre histoire. L'amour et la haine dans le transfert rendent possibles ces remaniements. Voilà, j'ai fini. Je laisse la parole à Auriel.
Eh bien, merci Laure. On m'a dit de ne pas toucher le micro, mais le micro a été touché,
la
je crois.
La droite, elle a dit oui.
Mais je crois que le micro a été touché par ce que tu as dit. C'est vrai que je suis comme ça un peu entamé. Et voilà, je voulais le dire, puisque je ne connaissais pas ton texte. Donc je voulais vous remercier de m'avoir permis de participer à cet ouvrage. N'étant pas directement bordelais, néanmoins, nous connaissant depuis de nombreuses années, en frayant justement les uns et les autres. Je pensais au frayage aussi, peut-être la vie, la mort, comme les saumons finalement qui frayent aussi, comme ça un passage, hein, pour pouvoir aller de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Voilà un peu. Alors... Je n'ai pas préparé de texte aujourd'hui pour vous. Je voudrais parler doucement, essayer de pouvoir poser mon empreinte. Parce que je me disais à vous écouter que vous posez des traces de votre travail à partir d'un lieu ou à partir de lieux que je ne connais pas. Et je me disais que c'était à moi aussi de pouvoir vous exprimer la façon dont je peux laisser une trace ici parmi vous. Et je vais essayer de le faire. Alors, le sujet que j'aborde dans l'ouvrage, puisqu'il faut parler d'ouvrage, le sujet c'est de savoir comment à partir, ça a été dit ici, par rapport au traumatisme, et en particulier le sexuel traumatique, comment le sexuel traumatique va être lui-même son propre sujet. C'est-à-dire que le sexuel traumatique est présent d'emblée, avant même le sexuel. C'est-à-dire qu'avant même qu'on puisse pouvoir le signifier comme sexuel, il est d'emblée traumatique, hein, au sens où on peut l'entendre, où c'est toujours du trop qui intervient. Et je dirais peut-être ça comme ça, c'est que le premier archaïque, c'est celui qui va laisser une trace, parce que cette trace, elle est d'emblée présente dans la mesure où ce dépôt signifie le trop-plein. Hein, il faut qu'il y ait ce trop-plein d'emblée pour que le dépôt puisse s'effectuer et qu'à partir de ce dépôt, une sédimentation puisse se faire, c'est-à-dire des couches successives. Et là, vous voyez bien que le propre de la psyché humaine, c'est d'introduire d'emblée une temporalité à partir de ce trop-plein qu'on ne peut élaborer d'emblée. C'est-à-dire que la temporalité, c'est un artifice qui va nous permettre de pouvoir poser des après-coups, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, après, et donner du sens à ce qui n'en a pas, bien sûr. Alors, à partir de cette toute petite introduction et par rapport à ce que j'évoque dans l'ouvrage, j'ai pris l'exemple, ce n'est qu'un exemple, d'un être, on pourrait dire un être très archaïque, si on peut dire comme ça, alors qu'il contribue quand même à notre évolution, vous le verrez, qu'on peut appeler un virus. Hein ? Un virus, c'est un être comme ça, qui vient du tréfonds des âges, qui est archaïque, qui n'a même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Hein ? Il est silencieux, il est muet, et il ne peut même pas se reproduire. Il a besoin de quelqu'un d'autre. Et ça a été dit tout à l'heure par rapport au fait, hein, tu l'as dit Patrick, que finalement le traumatisme, c'est quelque chose qu'on va faire partager à quelqu'un et qui va donner un sens. Et si on prend la métaphore du virus, là ici, on en a parlé, c'est le VIH, on peut prendre cet exemple, eh bien on s'aperçoit que ce virus, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se reproduire, a besoin d'un autre. Et c'est ce qu'on va, on va le nommer archaïque, on va le nommer dangereux, avec tous les mécanismes de défense qui ont été décrits. Et alors, ce que je voulais montrer un peu dans cette partie de l'ouvrage, c'est comment l'incarnation du sexuel traumatique, qui est incarné par le virus du VIH, c'est-à-dire que le VIH est arrivé à un moment où ce sexuel à l'adolescence refait trauma, hein, comme tout ce qui se passe bien sûr à l'adolescence, et que ce virus va être l'incarnation, le fantôme de quelque chose qui a eu lieu bien auparavant, bien sûr, hein, le premier sexuel traumatique qui refait figure et qui refait surface, on a parlé de la surface, qui refait surface à l'adolescence. Et dans cette partie de l'ouvrage, j'essaye de montrer comment cette incarnation de ce sexuel traumatique à l'adolescence va permettre un travail à une femme empêtrée dans ce sexuel infantile qui va avoir comme figurabilité des scénarios justement pervers, puisqu'elle a, disons, attrapé ce VIH dans des scénarios pervers agis, donc un peu répétitifs, et comment elle va pouvoir sortir de cette répétitivité à partir des scénarios pervers et à partir de la répétitivité du virus, c'est-à-dire que le virus ne fait que répéter, se reproduire toujours sur le même mode, et comment elle va pouvoir, à ce moment-là, arriver à s'extraire de ce sexuel traumatique incarné par le virus pour arriver au féminin par les processus de l'hystérisation. C'est-à-dire que j'essaye de remettre à l'honneur l'hystérie, hein, comme procédé psychique qui vise à s'extraire du répétitif pour mettre en place une autre scène. Hein, quand je m'adresse à vous, j'ai une autre scène là que vous ne voyez pas, que je vois, qui est celle comme ça d'un jeune enfant avec sa mère qui nous prend le son justement. Il y a la mère et la fille qui prennent le son. Voilà, on peut dire ça comme ça. Prendre le son, ça vous fait penser bien sûr à d'autres consonances. Et moi, ça me nourrit. Et ce que je veux dire par là, c'est que je crois que le propre du travail du psychanalyste, c'est de constituer une autre scène. Une autre scène. Une autre scène qui va, à ce moment-là, mettre en branle ce qui est répétitif, ce qui est comme ça les traces. C'est-à-dire que le propre des traces, quand une trace réussit trop bien, elle est sédimentée, elle est comme ça dans quelque chose d'une gangue, d'une enveloppe, une sorte de gel des représentations, et que notre travail à nous, c'est peut-être de pouvoir rendre mouvant ce qui a peut-être trop bien réussi par rapport au traumatisme, traumatisme de départ, où les choses comme ça se sont un peu figées. Et donc j'essaye de montrer ce travail tout au long de, comme ça, de ces quelques années, où cette femme-là va pouvoir aller à la rencontre de son féminin. Et on pourrait presque dire que le féminin est l'enfant merveilleux de la maternité. C'est-à-dire que ce n'est pas tant de rendre une femme à l'écoute de son maternel, hein, voyez les débats qui ont lieu actuellement, que plutôt de pouvoir permettre à une femme, aux prises avec quelque chose qui a gelé son développement psychosexuel, de pouvoir avoir accès à l'écoute du féminin, mais le féminin dans quelque chose où ce féminin serait quelque chose de manquant. C'est-à-dire quelque chose qui serait imparfait, qui ne serait pas une cuirasse, qui ne serait pas quelque chose comme ça d'établi où la trace serait fétichisée, mais qui permettrait d'ouvrir à toutes les figurabilités du féminin. Et peut-être ce que je voulais un peu montrer dans ce chapitre, c'est de montrer que le féminin, dans le travail du féminin, que ce soit pour un homme ou une femme, qu'importe, le travail du féminin, c'est d'avoir accès à différentes figurabilités qui n'ont pas une possibilité de trouver une figurabilité parfaite, déterminée, mais que ça puisse passer comme ça, d'un déterminisme à un autre, hein, une sorte de déplacement, évidemment, des figures, vous l'aurez compris. Donc c'est un petit peu ce que je voulais, comme ça, vous exposer en quelques moments, c'est-à-dire que cette figure de l'archaïque incarnée par le VIH va, cette figure-là, elle va disparaître pour laisser place à l'homme, justement, à l'homme, c'est-à-dire à la possibilité pour une femme de pouvoir avoir accès à son désir, qui n'est plus le désir de pouvoir maîtriser les figurabilités de la trace, une sorte de, comme ça, de gardienne, de vestale du souvenir, dans quelque chose comme ça où elle serait la gardienne et l'unique gardienne, mais de pouvoir ouvrir son désir à l'autre, à l'homme, dans une retrouvaille avec peut-être ce qu'on pourrait dire d'une mère suffisamment faible. Et peut-être je voudrais terminer là-dessus, en reprenant un peu ce que dit Monique Bidlowski, puisqu'elle a été nommée, c'est que peut-être notre travail à nous en tant que psychanalystes, c'est pas de rendre les gens forts, c'est de pouvoir être suffisamment ouvert pour avoir accès à cette faiblesse qui laisse le champ aux retrouvailles avec la mère originaire, qui n'est pas la mère toute puissante ou la mère phallique, mais la mère qui permet de rêver et d'offrir sa potentialité psychique à tous les possibles. Je vous remercie.
Donc, très bien. Je sais pas. Est-ce que c'est passé? Je sais pas. S'il y a une passe, c'est rien. Je ne sais pas. Donc, oui, alors, en résonance comme ça, Nikita Fall, d'un côté, la féminité. Avec l'accès à la mère suffisamment faible, il y a quand même Nikita Saint-Phal, c'est une dame, une grande dame pour moi, qui a vécu des choses extrêmement difficiles et qui est quand même un exemple, enfin, d'un parcours de subjectivation par l'art, avec effectivement un temps. Bon, elle est aussi passée par la psychiatrie et la psychanalyse, mais bon, ça, elle en a témoigné dans des livres, donc c'est public. Hein, bon. Un premier temps où ses productions sont, en gros, de prendre un pistolet à peinture et de bombarder des figures qui représentent son agresseur, qui est en l'occurrence son père, puisqu'elle en a parlé. Hein, bon. Puis un autre temps de sa vie où elle rencontre quelqu'un qu'elle a appelé l'homme de sa vie, enfin bon, qui est un autre artiste, et où il y a quelque chose qui s'est transformé très profondément en elle, et où effectivement elle a produit ces merveilles qui sont ces sculptures extraordinaires, enfin solaires, de féminité accomplie. Et pas seulement ça, et c'est ça, moi je pense que l'important, c'est pas seulement ça, parce que Nikita Saint-Phalle n'est pas seulement une artiste, elle a été aussi donc une femme, mais elle a été aussi une mère, et une mère qui a transmis à sa fille. Elle l'a écrit dans un livre qui est tout à fait magnifique d'ailleurs, justement quelque chose d'une espèce de leçon de vie où il est possible de pour sa fille en tout cas de vivre sa vie sans être écrasée par la figure de la victime, voilà, et ça me paraît enfin, moi, c'est ça le point qui me faisait associer, c'est-à-dire quelque chose qui est effectivement un passage. Il y a des passages, en somme. C'est-à-dire que, et ça, c'est un point. Alors, bon, j'ai pas voulu parler des cas cliniques que j'ai abordés là. Je n'ai pas envie d'en parler là dans ce que j'ai écrit, mais quand même, ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire, il peut y avoir des passages pervers, il peut y avoir des passages extrêmement dangereux, il peut y avoir, c'est les deux formes là, d'actes d'aménagement pervers. Il y a quelque chose qui n'est pas compromis, mais qui dépend d'une rencontre. Alors voilà. Ça dépend d'une rencontre. L'histoire de Nikita Saint-Phalle, c'est sûr que c'est une rencontre qui est dans sa vie, mais pas seulement. Une rencontre aussi avec une psychanalyste, bon, aussi, les deux. Hein, oui. Et y a un point, enfin, évidemment, moi, je pense que la question de l'autre est absolument fondamentale. C'est pour ça que le trop-plein, d'accord, mais enfin, bon, il y a aussi l'autre qui peut permettre que ça se transforme. Bon. Et ça, c'est un point qui est souvent négligé, enfin, qui est en même temps très connu et en même temps négligé. Je relisais la crainte de l'effondrement, où il est dit de façon très explicite que éprouver que l'effondrement qu'on craint, qui va venir, est quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est ce qui est l'équivalent de la remémoration dans les névroses. L'équivalent de la remémoration, c'est que ce n'est pas une remémoration. Mais c'est un équivalent. Et voilà, donc il y a un côté un peu énigmatique, et en même temps, alors on a essayé entre nous de faire circuler, évidemment, bon. Alors maintenant, peut-être c'est un peu difficile après des lectures comme ça de se relancer.
Je crois qu'il y a deux concepts là qui sont en train de se dégager. Et là, je me référais à nouveau à Nathalie Salzmann, c'est la différence entre culture et civilisation. Parce qu'effectivement, la civilisation, ben, ça peut être effectivement la peau comme abat-jour, c'est un effet de civilisation. Et la culture, justement, c'est ce qui permet de résister à cet effet, on va dire, régrédient de la civilisation, de l'inhumain, et ce qui peut permettre qu'il y ait un reste qui soit ensuite transformé en humain. Or ça, c'est à la fois ce qui nous occupe au niveau du sujet qui nous a animés, bah, c'est aussi ce qui nous a animés dans le groupe de travail qui s'est ensuite élargi puisqu'on en a fait un bouquin, et c'est ce qu'on a essayé de partager avec vous cet après-midi grâce à cet instrument de culture qu'est la librairie Mola.
Oui, qu'on vous remercie. Merci beaucoup pour vos présences.